L'une des questions les plus fondamentales qui se posent à l'homme dans sa relation avec Dieu, et je parle de ces personnes qui admettent que Dieu existe quelque part, qui admettent qu'il y a un être suprême dans l'univers. L'une des questions fondamentales, c'est de savoir comment m'approcher de ce Dieu et comment obtenir de lui ses faveurs, comment obtenir de lui la grâce, c'est-à-dire des faveurs que je ne mérite pas. Comment obtenir de lui la faveur suprême qui est de passer l'éternité avec lui? Alors vous le savez, il y a, grosso modo, hein, je simplifie, il y a deux orientations diamétralement opposées. L'une consiste à suivre la parole de Dieu et à dire « Nous sommes sauvés par la seule grâce de Dieu. Dieu a tout accompli pour notre salut. » En envoyant Jésus-Christ il y a 2000 ans, il a envoyé non seulement un message de pardon, mais un message de rédemption, un message de réconciliation, un message de glorification. Hein, c'était pas simplement entrer en relation avec lui par Jésus-Christ. Il nous a introduit dans quelque chose d'extraordinaire. La position biblique accorde absolument tout le mérite et tout le crédit à Dieu, en ce qui concerne notre salut. Nous sommes sauvés par la grâce, vous connaissez tous Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9 qui disent « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Il est très clair là, dans ces écritures et dans beaucoup d'autres écritures, que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Nous nous approchons de Dieu, plaçant notre confiance dans ce que Dieu a fait. C'est la position biblique, c'est celle qui est défendue ici, c'est celle qui est prêchée dans vos églises. À côté de cela, de manière parallèle, hein, concomitante, il y a des milliers et des milliers, que dis-je, il y a des millions qui reconnaissent l'existence d'un Dieu quelque part, mais qui ont adopté des théories religieuses, qui ont adopté l'enseignement d'une église, l'enseignement d'une secte, et qui permettent, dans leurs explications, dans leur conception, ils permettent à l'homme, quelque part, de participer, d'être coparticipant, d'œuvrer avec Dieu en ce qui concerne le salut de l'âme humaine. Une espèce, pour un terme un peu compliqué, synergie, mais ça veut dire travailler ensemble, ça, synergie. Ça veut dire travailler avec. C'est comme si Dieu faisait quelque chose, mais bon, maintenant, nous, il faut qu'on travaille avec pour obtenir le salut. Alors, dans ces groupes-là, vous avez les gens qui disent, oui, il faut croire en Dieu. Il faut croire en Dieu, et puis, il faut aussi, pour le salut, alors, ajouter ils prétendent, hein, moi je dis pas que ça vient de la Bible. Il faut ajouter les moyens de la grâce, les sacrements. Alors les catholiques par exemple en ont 7. Le baptême, je commence à les réciter, je vais pas m'en sortir. Le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la pénitence, le mariage, l'ordre et l'extrême onction. Merci Seigneur. Il y en a 7. Chez d'autres, il y en a moins. Les luthériens, par exemple, en ont 2 ou 3. Hein? 2, je dirais. Hein? Mais il y a ces sacrements. Donc l'homme est sauvé, oui, c'est vrai, par Dieu, mais là, il est obligé de venir maintenant et d'être baptisé, il est obligé de venir et de recevoir l'hostie, il est obligé de faire un certain nombre de choses pour compléter ce salut. Chez les catholiques, il y a aussi les œuvres méritoires. Alors les œuvres méritoires, c'est pas simplement les bonnes œuvres que vous faites, hein, ce n'est pas simplement les œuvres que font les catholiques à titre personnel. Ils bénéficient dans leur théologie de ce qu'ils appellent le trésor des mérites. C'est-à-dire toutes les bonnes actions de Marie, des saints, et de tous les personnages qui ont vécu à travers les siècles, et qui ont fait de grandes choses, qui ont fait beaucoup de bonnes actions, et qui peuvent, en fait, dans leur optique, vous transférer quelques petites bonnes actions à vous. Hein? C'est le trésor des mérites. Bon. Donc, vous avez dans ce groupe-là les catholiques, les orthodoxes et certaines sectes qui s'appuient sur les mêmes idées. Ensuite, vous avez ceux qui pensent que, oui, il y a la foi en Dieu et Dieu par sa grâce sauve, mais il faut maintenant aussi être baptisé. Et de manière très étrange, on trouve dans l'Église luthérienne l'idée que le baptême régénère, le baptême sauve. C'est très très étrange, hein, la régénération baptismale. Alors, Dieu agit, oui, mais il y a la foi, et puis il y a le baptême qui se situe là quelque part dans cette chose. Et puis vous avez tout un troisième groupe, où vous avez Dieu, plus les œuvres méritoires personnelles. Toutes vos bonnes œuvres. Les témoins de Jéhovah, par exemple, sont à l'œuvre, à l'œuvre, à l'œuvre, à l'œuvre, à l'œuvre. Et beaucoup de chrétiens évangéliques disent « Ah, ils nous font honte à nous, hein, parce que nous ne sommes pas aussi engagés et consacrés qu'eux. » Mais il faut savoir que le témoin de Jéhovah sort et distribue la tour de garde, et il ne distribue pas l'évangile, il distribue la tour de garde, et puis réveillez-vous, et puis d'autres littératures pleines d'hérésie. Il fait cela parce que on l'a convaincu que pour avoir son salut, là, il va être obligé de faire des œuvres. Il va être obligé d'accomplir des actions. Et ils sont convaincus, donc, qu'il y a Dieu plus les œuvres méritoires personnelles de l'homme. Alors, ces positions, hein, qui sont fausses, qui sont erronées, je dirais qu'on trouve dans les sectes, qu'on trouve dans le catholicisme, qu'on trouve même parfois chez certains protestants, repose soit sur une acceptation partielle des Écritures. Ça, c'est les catholiques, partielle. Mais ne croyez pas que les témoins de Jéhovah soient plus complets dans leur compréhension des Écritures. Ils utilisent à peu près 7% des Écritures et dédaignent le reste. Hein? Donc, ne croyez pas que ce soit des gens qui vraiment sont en train d'étudier la Bible. Les gens qui sont vraiment en train d'étudier la Bible, ce sont les chrétiens bibliques, ce sont les chrétiens évangéliques qui étudient les livres de l'Ancien Testament, les livres du Nouveau Testament, et ils sont en train de les méditer et d'en tirer toutes les leçons pour eux-mêmes. Là, il y a une approche où l'on dit toutes les écritures, et il faut les bien comprendre et les bien intégrer. Donc, parfois, des systèmes reposent sur une acceptation partielle des Écritures. Alors, lorsque le catéchisme catholique est sorti en France, dans sa version donc française, en 1993, je me suis empressé de l'acheter, non pas pour devenir catholique, mais pour voir si les catholiques avaient évolué vers des conceptions plus saines que celles qu'affichait le catholicisme précédemment. Je me suis rendu compte que ce catéchisme catholique, qui est très volumineux d'ailleurs, hein, ça prend un certain temps, moi ça m'a pris pratiquement une vingtaine de jours pour tout lire et tout méditer, pendant un été, hein, et ce catéchisme catholique, vous trouvez quelques versets, par-ci, par-là, souvent cités hors de contexte, souvent cités à contresens, et puis alors, la tradition des soi-disant père de l'Église, ce que Tertullien a écrit, ce que Augustin a écrit, ce que Thomas d'Aquin a dit, ce que ceci. Et alors, ce sont les idées des hommes qui viennent se superposer là sur à la place, se substituer, je devrais dire, à la place des Écritures. Hein. Donc, il y a une acceptation seulement partielle des Écritures. Vous prenez les mormons d'histoire. Hein, oui, la Bible, mais ils la connaissent pratiquement pas. Par contre, le bouquin qu'ils lisent et qu'ils dévorent, c'est ce fameux livre des Mormons. Et si vous avez fait comme moi et vous l'avez lu, je vous conseille même pas de faire parce que c'est un tissu d'ineptie. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vous prend la tête. Moi, j'ai pris le temps de lire le livre des Mormons et puis de voir s'il y avait des choses qui correspondaient aux Écritures. Il y a quelques petits textes là qui ont été empruntés aux Écritures, dans la version King James, là, dans la version anglaise. Mais il y a beaucoup d'histoires abracadabrantes, sans aucun fondement, sans aucun appui historique, archéologique, etc., etc. Il y a même des contresens par rapport à ces choses-là. Et la secte des Mormons ajoute donc, un, le livre des Mormons, deux, d'autres écrits. Monsieur Fox va être ici demain, c'est lui qui enseigne secte des religions. Vous lui posez la question, sur quoi s'appuie la foi des Mormons? Et il va vous dire exactement, hein, la doctrine de l'Alliance, etc. Ils ont toutes sortes de livres. Les Adventistes du septième jour, pareil. Et toutes les sectes ont une acceptation partielle des Écritures. Partielle. Ensuite, vous avez l'adjonction de théories humaines. Des théories humaines qui viennent se greffer, hein, à la Bible. Ah oui, la Bible. Mais bon, on ajoute certaines choses qui viennent des philosophies, qui viennent d'une pseudo-science parfois, hein, du scientisme plus que de la science. Et il y a l'adjonction de toutes sortes de théories humaines à côté de la Bible. Et puis, ce qui me semble aussi très significatif, et Dieu nous préserve de tomber dans le même panneau, il y a des sectes qui se sont spécialisées dans le domaine d'expliquer les passages les plus complexes, d'expliquer les passages les plus difficiles et d'établir des quasi-dogmes sur des passages extrêmement difficiles. Et il y a une focalisation outrancière sur certains textes qui sont pris largement hors de contexte, largement surtout hors du contexte biblique. Et il arrive parfois que des chrétiens bibliques, de jeunes chrétiens, soient troublés et même parfois ébranlés dans leur foi par des versets qui sont pris isolément dans les Écritures. Alors, vous avez par exemple Matthieu 16:16. Tu veux le lire, Emmanuel, s'il te plaît? Matthieu 16:16. Il y a de jeunes chrétiens qui sont troublés par ce verset. Marc. Merci. Au moins quelqu'un qui est bien éveillé, là. Et... Très bien. Marc 16:16. Surtout que je l'avais mis, hein, Marc 16:16 dans mes notes. Hein. Marc 16:16. Bien fort, bien fort pour qu'on puisse entendre et articule.
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné.
Alors, sur la base de ce seul texte, il y a des gens qui disent, voilà, nécessité de croire et d'être baptisé pour être sauvé. Ok? On va revenir là-dessus. Deuxième texte. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15 et verset 29. Rémi. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15 et verset 29.
Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux?
Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, se faire baptiser pour les morts? Comment est-ce qu'il faut comprendre ce verset-là? Hein? Bon, les Mormons ont donné l'explication suivante, c'est que, eux, dans une cérémonie quasi secrète, hein, dans leur temple, ils se font baptiser pour des morts. Et en fait, ils ont réussi à se procurer les états civils de beaucoup, beaucoup de pays, entre autres celui de la France. Ils sont en train de se faire baptiser pour vos ancêtres parce qu'on les a convaincus que le texte, là, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 29, eh bien, c'était un verset, hein, qui montrait que l'on pouvait être baptisé pour les morts et pour leur salut. Hein. C'est, évidemment, on ne va pas se faire baptiser pour les prunes. Là. Donc, ils se font baptiser pour vos ancêtres, afin que vos ancêtres soient sauvés. Honnêtement, si c'était ça le moyen de sauver l'humanité, alors là, je dirais qu'il faut acheter une grande piscine, hein, et puis on va faire la même chose. On va faire la même chose, hein, et puis on ne va faire que cela d'ailleurs. Hein. Je crois qu'il est urgent qu'on fasse que cela, qu'on reprenne depuis l'aube de l'humanité tous les noms qu'on peut trouver, et puis de se faire baptiser au nom de je sais pas qui là, de géant et de Guillaume ou je ne sais pas qui, Guillaume le Conquérant. Et un autre texte qui prie isolément peut engendrer la confusion dans l'esprit des jeunes chrétiens. Qui possède pas bien les Écritures, c'est Philippiens, chapitre 2 et verset 12. Philippiens, chapitre 2 et verset 12. Monsieur David a déjà le passage, donc je vais lui demander de le lire.
Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent.
Non, travaillez à votre salut, ça veut dire quoi? Il faut que je me défonce là, que je me décarcasse, que je fasse toutes sortes d'œuvres pour obtenir ce salut. Hein? Est-ce que c'est ça la signification du texte ici? Et on pourrait évidemment ajouter, hein, bon, parce que bon, je ne suis pas exhaustif là, j'ai pris trois passages, j'aurais pu en choisir beaucoup d'autres, mais il y a notamment ce texte dans l'épître de Jacques. Dans l'épître de Jacques, hein. Je crois que c'est dans chapitre 2, verset 17. Verset 17. Alors là, c'est le verset que me sortent régulièrement les témoins de Jéhovah à qui j'ai l'occasion d'apporter un témoignage, hein. Ils me disent, ah, vous dites qu'on est sauvé par la foi seulement, hein. Regardez ce verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même, non existante. Elle n'a pas de vie en elle-même. Alors, je vais faire un petit peu appel à votre réaction là. Vous avez certainement eu à expliquer certains de ces versets là, Denis. Jean-Claude, certains d'entre vous là, vous témoignez autour de vous. Vous avez certainement eu à expliquer ces versets-là. Alors, si quelqu'un vous dit, oui, mais Marc 16 nous dit qu'il faut croire et il faut être baptisé pour être sauvé, qu'est-ce que vous allez répliquer à cela? L'un ou l'autre, hein, qui veut prendre la parole?
Par exemple, Marc 16, réponse que je donne normalement. Okay. Il semble que l'Écriture donne deux conditions pour le salut.
Oui.
Mais c'est pas forcément vrai. Parce que, si on regarde ce verset dans le contexte de toute la Bible, de tout le Nouveau Testament, on regarde que jamais le baptême n'est cité comme une condition requise pour le salut.
Okay.
Et donc, on peut revenir sur le verset comme celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. La deuxième partie du verset, celui qui ne croira pas, c'est la condition pour être condamné.
Ok.
D'accord. Et donc c'est la foi qui détermine si on est sauvé ou non. Et le baptême, c'est un extra. C'est quelque chose qui est ajouté. Et je peux dire que le verset peut être compris comme ça. Si je monte dans un autobus et que je prenne ma place assise, j'arriverai à Marseille. Mais si je ne monte pas dans le bus, je n'arriverai pas à Marseille. L'essentiel, c'est monter dans le bus.
Mm-hmm.
Et si je prends la place assise, c'est plus confortable, mais ce n'est pas l'essentiel. C'est quelque chose qui est ajouté.
Mm-hmm.
Donc c'est la foi, si on croit ou non, qui détermine ma destinée.
Alors, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi, dans ce texte, pourquoi est-ce que Marc aurait ajouté cela? Pourquoi est-ce qu'il aurait mis cela en plus? Quelle était son intention? Quel était son but? Pourquoi est-ce qu'il ajoute le baptême? Denis?
Je pense que si on croit, on va se baptiser parce qu'on croit dans le Seigneur. Le Seigneur nous demande de faire. Ce n'est pas la condition du salut. Mais c'est le fait de notre foi qui nous amène à se faire baptiser, à obéir au Seigneur.
Guillaume?
C'est la foi publique
de notre salut. En fait, le baptême étant le témoignage public de notre foi, c'est le moyen de prédilection, c'est le moyen premier, hein, d'annoncer au monde, voilà, je suis né de nouveau, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, et je m'identifie à Jésus-Christ dans sa mort, ensevelissement, résurrection, je m'identifie complètement au sacrifice du Christ, j'en apporte le témoignage public par mon baptême. Bon, ça exclut dans tous les pseudo-chrétiens, pseudo, hein, c'est-à-dire faux chrétiens, hein, non-chrétiens, intellectuels, ou qui disent, moi je veux bien croire, mais pas pratiquer. Croire et ne pas pratiquer est un non-sens. C'est un non-sens. Si je crois en quelque chose, je milite pour la chose. Si je crois en quelque chose, elle pénètre dans toutes les fibres de ma personne, hein. Et me pousse à faire des choses et me pousse à éviter d'autres choses. Croire, c'est le fondement même de ma conduite. Et croire en Jésus-Christ, c'est ce qui m'a mis au pied du mur un jour en disant, bon, faut t'identifier là maintenant par le baptême, faut le faire. Est-ce que oui et non, Jésus-Christ est ton sauveur? Oui, bon, faut baptiser. Toute ta famille est contre, tous tes amis sont contre, mais fais-le. Ok, voilà, déjà un début d'explication. Mais je crois que notre ami a mis le doigt sur quelque chose de très important. C'est qu'en aucun cas, on ne prend un verset de manière isolée et on établit une doctrine à partir d'un verset isolé. La Bible est son propre interprète. On doit prendre l'ensemble des vérités. Et l'ensemble des vérités n'est pas contradictoire. L'ensemble des vérités est harmonieux. Donc la Bible interprète la Bible. Ça c'est quelque chose de très important qu'on inculque ici à l'Institut biblique, et je l'espère de tout mon cœur dans vos églises locales. Hein. Prenons le passage de la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 29, qui est extrêmement complexe. Parce que là j'ai lu beaucoup d'explications à propos de ce texte. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 29. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15 et verset 29. Quel est le contexte? Parce que ça, c'est important. On va prendre ce verset-là et puis le autrement que ferait, c'est lié à quelque chose qui précède. Là. C'est pas un verset qui tient tout seul, là. Tiens, comme ça, une espèce d'appendice, là. Dieu dit, maintenant, faites-vous baptiser pour les morts. Non. Tout ce verset-là appartient à l'un des chapitres les plus complets sur la question de la résurrection des corps. Résurrection des corps. Bon, les gens disent toujours, oui, mon âme va être sauvée. Mais c'est vrai, notre âme, c'est notre véritable personne. Hein. Moi, je suis en train de changer par rapport à la photo que vous auriez pu prendre de moi il y a 30 ans ou 40 ans. Je vais changer et je vais encore changer si le Seigneur m'accorde quelques années, là. Hein. Le véritable moi, c'est pas la personne physique. Le véritable moi, c'est la personne intérieure. L'homme intérieur. L'âme-esprit. Je ne dissocie pas ces choses-là. Cette âme-esprit, la Bible nous dit que pour un chrétien, lorsqu'il meurt, cette âme-esprit va dans la présence de Dieu. Le corps va dans la terre. Le corps va dans la terre en attendant la résurrection. La résurrection va intervenir lorsque Jésus revient pour prendre ceux de l'Église qui lui appartiennent, ceux de l'Église, c'est-à-dire ceux qui lui appartiennent. La première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 16, nous dit que lorsque Christ reviendra, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il n'est pas question de la mort des autres, des morts non chrétiens, mais les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et puis, les chrétiens vivant à l'avènement du Seigneur seront enlevés, eux aussi, à la rencontre du Seigneur. Le texte de la première épître aux Corinthiens complète cela en disant, il y a une transformation pour tout le monde. On passe de corps terrestre à corps céleste, on passe de corps corruptible à corps incorruptible, on passe de corps, mortel, hein, à corps immortel. Mais il y a un corps, un nouveau corps. Un corps glorifié. Et notre âme et esprit seront donc réunis à ce corps glorifié. Ceux qui seront vivants au moment de l'avènement du Seigneur, eux, seront transformés en un clin d'œil, dit le texte. Hein, en un clin d'œil. Pourquoi je prends cette Bible-là? Je trouve qu'il n'y a rien dedans. C'est la Bible toute nouvelle. Ça vous arrive ça d'avoir une Bible que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser? Moi, je sais où sont les versets, et puis certains sont soulignés. Alors, la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, Et le verset, les versets que j'ai cités là, hein, à propos du corps corruptible, etc. Vous avez verset 42 là. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé naturel, il est ressuscité spirituel. Hein. Et là, au verset 52, hein, 51, voici je vous dis un mystère, c'est-à-dire une révélation que seul Dieu pouvait nous transmettre, qui était pas accessible à l'homme, mais que Dieu a révélé. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Et à ce moment-là, on pourra intégrer donc la félicité éternelle auprès du Dieu saint. Hein? Alors, dans ce contexte de résurrection, avec pour toile de fond les Corinthiens. Alors, les Corinthiens étaient pénétrés des idées philosophiques. Hein? Corinthe, ça se situe en Grèce. Hein? Ils étaient pénétrés des idées philosophiques, et l'une de ces idées philosophiques, c'était bon. L'esprit, c'est vrai, l'esprit c'est noble. L'esprit c'est très noble, et on comprend que Dieu puisse accueillir nos esprits, notre âme esprit. Mais le corps est vil. Le corps est repoussant. Il faisait une espèce de distinction là entre la partie spirituelle de l'homme et la partie matérielle. La partie matérielle, en aucun cas, elle ne pouvait se présenter dans la présence de Dieu. Et il fallait convaincre les uns et les autres, et nous aussi, il fallait nous convaincre que Dieu ne nous sauvait pas simplement dans notre esprit, mais nous sauvait dans notre corps et notre esprit. Et la création aspire à retrouver justement cette rédemption, comme le dit l'apôtre Paul dans les Romains. La création aspire à retrouver sa candeur initiale, son innocence initiale. C'est vrai pour les hommes, c'est vrai pour le reste de la création. Hein. Donc, dans ce contexte de résurrection, on trouve au verset 9, autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Alors, il est vrai que c'est un verset complexe. Il est vrai que c'est un verset qui a suscité beaucoup, beaucoup, beaucoup d'explications. Hein. Mais Paul ne parle absolument pas, hein, ça c'est clair et net parce qu'on a l'appui des autres écritures là-dessus, hein, Paul ne parle absolument pas de baptiser des chrétiens en faveur d'autres personnes, d'incrédules, hein, qui auraient déjà passé de vie à trépas. Hein. Le baptême n'a jamais eu le pouvoir de sauver qui que ce soit. Il n'y a pas un seul verset hein, qui pourrait attester que le baptême sauve qui que ce soit. La parole de Dieu nous dit, celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La parole de Dieu nous dit, l'homme meurt, hein, on ne meurt qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Et la Bible dit que ceux qui ne croient pas sont déjà jugés. En ce qui concerne la question du salut. Hein? Donc, il y a un ensemble de vérités hein, qu'il faut absolument intégrer et dire, mais attendez, on peut pas prendre un verset comme ça tout seul et puis bâtir une doctrine abracadabra contraire au reste de la Bible, là. Il faut intégrer ce que la parole de Dieu nous enseigne. Surtout dans ce contexte de Corinthe, imaginez-vous, à Corinthe, il y avait des persécutions, hein, Et ces chrétiens-là se seraient fait baptiser, dans l'optique mormone, là, se seraient fait baptiser au risque de leur vie pour des gens qui sont déjà morts, pour une doctrine qui n'est pas étayée par les Écritures, ça tient pas debout, c'est abracadabra. Non, c'est simplement le fait que, ici, des générations de chrétiens, hein, se succèdent, on se fait baptiser, non pas pour les morts, mais l'idée c'est en remplacement, là. On les remplace, une génération remplace une autre génération. Hein? Ce verset, honnêtement, ce qui est terrible, c'est que les gens prennent un verset hors de contexte, hein, et le mettent sous le nez d'un chrétien mal affermi ou d'une personne inconvertie qui ne connaît pas les Écritures, on leur met le verset sous le nez, et on va leur dire, bon, nous, on est les seuls qui pratiquons cette chose-là. Donc, c'est nous qui avons la vérité. Pfiouf. Tout est contraire dans le système à la vérité. Tout est contraire. Le salut par la grâce, le salut par la foi, le baptême comme signe, comme engagement d'une bonne conscience et comme identification à Jésus-Christ, tout est bafoué partout, sur toute la ligne. Le fait que chaque homme est responsable de lui-même. Là, quelqu'un n'est... Il vit n'importe comment, anti-Dieu, blasphémateur et tout, et puis il se trouve qu'un mormon, là, tout trouve son nom, là, sur une liste, et dit, tiens, je vais me faire baptiser pour lui, pour qu'il soit sauvé. Tout est contraire. Monsieur Engara, quelqu'un d'autre veut ajouter? Oui.
Est-ce que le pour, le mot pour, ne pourrait pas se traduire aussi par le mot à cause de? Parce que, en grec, bon, c'est un des sens possibles, et donc ce seraient des personnes autrement que feraient ceux qui se font baptiser à cause des morts.
Oui, mais on a toujours l'explication à donner. À cause des morts, ça veut dire quoi?
Bon, parce que ces personnes-là, peut-être, en se faisant baptiser, c'était au prix de leur vie, et ça poussait d'autres, en voyant ce témoignage chrétien, de voir qu'il y avait une véracité, une profondeur dans oui. quelqu'un qui croit et qui est prêt à mourir.
D'accord. Tu es obligé d'apporter l'explication quand même si tu changes la... Est-ce que je suis d'accord avec toi que cette préposition grecque peut être traduite, et elle est traduite ailleurs à cause de...
Je vois dans le passage, verset 12, une question posée.
Voici l'empêche que Christ est ressuscité des morts. Pourquoi quelques-uns parmi-vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts?
Voilà.
Et alors, depuis verset 13 jusqu'à verset 34, l'apôtre Paul est en train d'établir que, en fait, les morts ressuscitent. Les morts reviendront à la vie.
Ouais.
D'accord? Et donc, apparemment, il y avait quelques gens dans l'église de Corinthe qui croyaient qu'il n'y a pas de résurrection.
D'accord.
Mais ces gens avaient été baptisés. Et quand on est baptisé, on est immergé, ensuite, on sort de l'eau. C'est l'image de l'ensevelissement, mais aussi de la résurrection. Et verset 29, Paul est en train de dire aux gens, mais vous avez été baptisé, mais pourquoi est-ce que vous êtes baptisé à l'image de la mort et la résurrection si vous ne croyez pas à la résurrection des morts?
Uh-huh.
Donc il dit, autrement, que feraient ceux, je parle maintenant en troisième personne, autrement, que feraient ceux qui se font baptiser en référence aux morts ou pour les morts? Pourquoi est-ce que vous vous faites baptiser pour vous identifier avec ce mort et cette résurrection. Et donc, c'est la signification du verset. Hein?
Ok.
À mon avis.
Oui, non, mais c'est un verset compliqué. C'est un verset compliqué. Mais le problème, c'est que c'est une erreur monumentale hein, que de prendre un verset qui est extrêmement compliqué et de s'en servir comme base pour interpréter les versets qui sont simples et compréhensibles. Et ça, c'est ce que font les mormons. Ils prennent un verset compliqué sur lequel tout le monde se creuse la tête, là, et ils servent de base à toute une explication concernant le salut. Mais c'est farfelu. On prend les choses simples et on essaie de comprendre les choses compliquées à partir des choses simples. Prenons le troisième texte, Philippiens 2.12, là, parce que notre temps file à grande vitesse. Philippiens 2.12. Philippiens 2.12 qui parle de travailler à votre salut. Là. Hein, Philippiens 2.12. Alors, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, hein, donc ils l'ont fait, c'est pas quelque chose qu'ils ne faisaient pas, hein, les Philippiens, c'était une église tout à fait engagée et consacrée. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Alors, est-ce que ce passage enseigne qu'il nous faut absolument travailler pour obtenir le salut? Si ce n'est pas le cas, vous vous basez sur quoi pour dire que ça ne peut pas être le cas? Et si ce n'est pas le cas, quelle explication donner au texte qui est sous vos yeux? Parce que c'est on peut pas dire, bon, le texte ne dit pas cela. Faut apporter une explication aussi. Est-ce que la Bible montre qu'on peut être sauvé par les œuvres?
Non,
elle l'exclut complètement. On a cité tout à l'heure Éphésiens chapitre 2 et verset 9 qui nous disait, ce n'est point par les œuvres. Point, absolument pas par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Et il y a d'autres passages dans Romains qui soutiennent également cette proposition biblique que le salut, se fait entièrement par la grâce de Dieu lorsque l'homme se confie dans ce que Dieu a fait et non pas se confie dans ses propres œuvres. Alors, est-ce que la Bible est contradictoire? Alors comment est-ce que vous allez expliquer ce verset 12 dans Philippiens chapitre 2? Denis?
De mettre en œuvre notre salut. En fait, on voit dans Éphésiens chapitre 2 verset 10, car nous sommes sans ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, on a préparé des œuvres afin qu'on les pratique, et on voit apparemment que le salut, c'est par la grâce de Dieu, par le moyen de notre foi. Donc, c'est pas en travaillant qu'on va accéder au salut, mais en mettant en œuvre notre salut, c'est-à-dire en pratiquant les œuvres que Dieu a préparées d'avance.
Ouais. Donc ce que tu dis en ce moment, ce que tu dis là, c'est que ici on est en train de parler de la mise en pratique de la réalité de notre salut. La mise en pratique de la réalité de notre salut. Ok. Bon, c'est vrai que le mot salut, on est en train de le voir en doctrine de sotériologie là. Nous, on est en train de voir en 45 minutes, ce qui va nous prendre 32 heures, à plus de 32 heures ici au niveau des classes. Donc, il est certain qu'on va être schématique, mais j'essaie de cibler pour que au moins vous puissiez emporter avec vous certains versets, certaines vérités. Le témoignage de nos amis est là pour corroborer cela. Le mot salut, c'est très très vaste. Le salut commence dans l'éternité passée. Il y a un plan de Dieu. Qui est conçu par Dieu pour le salut de l'homme. Dieu déjà dans son omniscience là, dans sa préscience, voit ceux qui vont se convertir, etc. Il prépare l'accès au salut, etc. Ensuite, avec Jésus-Christ accepte la mission. Éphésiens montre cela. Éphésiens chapitre 1er montre cela. C'est très beau. L'œuvre de Père. Ensuite l'œuvre du Fils. Ensuite, l'œuvre du Saint-Esprit dans la question du salut. L'œuvre du Père, de toute éternité, il a préparé ce plan du salut. De toute éternité, il a mis en place des choses pour le salut de ceux qui se convertiraient. De toute éternité, ces choses sont mises en place. Ensuite, Christ vient, et il, par son sang sur la croix, par son sacrifice sur la croix, il apporte ce que nul homme pouvait faire. Le pardon des péchés, la rémission des péchés. Mais le salut, c'est aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va convaincre de péché. Le Saint-Esprit qui va prendre les vérités bibliques et les transmettre au cœur de l'homme pour que l'homme dise « Non, je crois pas. » Ou « Oui, je crois. » Parce que dans le fond, l'homme est toujours là avec sa décision. Sinon, les passages qui disent « Quiconque croit » n'ont pas de sens. Alors, l'homme est là, et il y a l'Esprit de Dieu qui le convainc de pécher, et puis l'Esprit de Dieu. Honnêtement, je peux dire que moi, quand j'ai découvert les vérités bibliques, etc., j'ai pas résisté. Et j'ai été attiré, vraiment attiré, à Dieu, à Jésus-Christ, et je me suis repenti de mes péchés, j'ai cru, et j'ai exprimé cette foi. Mais le salut, c'est quoi encore? Eh bien, le salut, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous et qui est devenu un gage des arts donné par Dieu pour la manifestation de notre salut. Parce que nous disons que nous sommes sauvés et nous avons raison, nous sommes sauvés. Nous disons que nous avons la vie éternelle et c'est vrai, nous avons la vie éternelle. Mais la manifestation de ce salut et la manifestation de cette vie éternelle, sont encore pratiquement futures. Futures. Et il y a un jour où on va être, alors, complètement transformé à l'image de Jésus-Christ et nos corps corruptibles, hein, transformés en corps incorruptibles, etc. Il y a un jour où la pleine manifestation de notre salut sera une réalité. Le salut comprend, alors, les doctrines en parallèle, hein, l'élection, la rédemption, l'œuvre de conviction du Saint-Esprit, la glorification. Il y a toutes sortes de ramifications à cette doctrine du salut, et l'une d'entre elles s'appelle sanctification. Qu'est-ce que c'est la sanctification? Qu'est-ce que c'est la sanctification? Vous pouvez vous dépêcher, on n'a plus que 2 minutes là. C'est l'œuvre de Dieu dans votre cœur et dans le mien, hein, pour que nous soyons rendus de plus en plus conformes à Jésus-Christ. Il y a l'action de la parole de Dieu, il y a l'action de l'Esprit de Dieu, et si je ne suis pas rebelle, si je ne suis pas pris, hein, par la chair et les convoitises de la chair, si je laisse vraiment l'Esprit de Dieu contrôler ma vie, alors Dieu œuvre pour cette sanctification. Mais de mon côté, je dois mettre en œuvre les fruits de mon salut. Les fruits de mon salut. Parce que, c'est ce qu'il faut dire aux témoins de Jéhovah, c'est parce que je suis chrétien que je fais des œuvres. Ce n'est pas pour devenir chrétien que je fais des œuvres. C'est parce que je suis sauvé que je fais des œuvres. Ce n'est pas pour être sauvé que je fais des œuvres. Et ces œuvres, comme Denis le disait tout à l'heure dans Éphésiens chapitre 2 et verset 10, Dieu les a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et honnêtement, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, et c'est encore par la grâce que nous renonçons à l'impiété, comme le dit l'épître de Tite, hein. C'est par la grâce que nous renonçons à l'impiété et que nous marchons selon Dieu. C'est par la grâce de Dieu, c'est pas par vos efforts, c'est pas par les miens. Et pourtant, ce texte nous dit, mettez en œuvre, hein, concrètement votre salut avec crainte et tremblement. Alors pourquoi crainte et tremblement? Est-ce qu'on peut perdre son salut? Il va falloir expliquer ça. Que pourquoi crainte et tremblement?
Au verset 15, le but, s'explique. Afin que vous soyez irréprochables et purs, les enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est pour le témoignage.
Témoignage.
Dieu veut que nous ayons un bon témoignage. Afin que c'est le but.
Vous vous souvenez de ce que Jésus disait, et qui nous semblait très très fort, là? Quand il disait, malheur à celui qui est une pierre d'achoppement pour les autres. Malheur. C'est grave d'être une pierre d'achoppement pour les autres. Hein? Et notre vie devrait vraiment refléter, hein, la présence de Dieu, et de manière si concrète et si réelle, hein, que nul ne puisse douter de ce que Dieu est en nous et agit en nous. Et l'apôtre Paul dit bien, non pas seulement en ma présence, mais même quand je suis absent, là, c'est pas parce qu'il y a un pasteur qui vous surveille du coin de l'œil, là, que vous allez faire des choses bien et dire des choses bien, et puis quand vous n'êtes plus sous l'œil de quelqu'un d'autre, vous pouvez vivre à votre guise. Non. C'est devant Dieu. C'est toujours devant Dieu que nous vivons notre foi. C'est devant le monde, et nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Alors, je voulais vous dire, hein, à travers cette petite leçon de choses apprises dans un immense contexte de doctrine du salut, parce qu'elle est immense cette doctrine, et quelques petites choses particulières là, pour que ce soit utile. J'aurais pu être général et puis dire des choses qui sont trop larges pour être de quelque intérêt. Mais il faut impérativement que vous disiez la Bible, mais toute la Bible. Pas simplement un verset qui peut parler. Je n'interprète pas un verset de manière isolée. Je le regarde en son compte.